Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, en direct, comme toutes les quatre semaines, sur Radio Courtoisie. Tout d'abord, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année à vous et à tous ceux qui font vivre cette radio. Comme l'on disait il n'y a pas si longtemps en France, avant la déchristianisation et tous les malheurs qui l'accompagnent, bonne année, bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Ce soir, le programme est riche, alors je vous propose de nous y plonger sans tarder. L'année a démarré sur les chapeaux de roue, si je puis dire, en particulier sur le continent américain, comme vous le savez. Alors dans un premier temps, nous allons évoquer ce qui s'est passé au Venezuela et ce qu'il y a éventuellement derrière, avec Alain Le Bihan. Puis dans un deuxième temps, nous aborderons sur les rivages à la fois de la philosophie, de la politique, de la religion, avec notre invité Maxence Écart, pour évoquer la question, et le problème, s'il y en a un, de la démocratie chrétienne. Nous verrons que ce n'est pas un sujet purement théorique, mais toujours concret et actuel. Enfin, nous reprendrons, dans une troisième partie, notre promenade dans le Paris sacré, qui a débuté il y a bien 2 ans, en compagnie toujours de Gérard Le Tailleur et du frère Thierry, qui sont déjà dans le studio d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir frère Thierry.
Bonsoir chers amis.
Bonsoir Thibault.
Bien sûr, vous pouvez intervenir dans cette émission si vous nous écoutez en direct le 8 janvier, chers auditeurs. Alors non pas par téléphone exceptionnellement, mais par courrier électronique ou en envoyant un message sur le site de la radio directement. Mais il faudra réagir rapidement, surtout pour la première partie, parce que le temps risque de filer. Voilà, alors pour commencer... J'ai donc justement le plaisir d'accueillir, par téléphone exceptionnellement, Alain Le Bihan. Bonsoir Alain.
Bonsoir Thibault, et bonsoir tous ceux qui sont présents sur le plateau.
Merci.
Et
merci.
Mes meilleurs voeux aux auditeurs.
Oui, merci d'être avec nous. Alors je rappelle que vous êtes essayiste, vous avez déjà publié plusieurs essais, et notamment un petit, donc vous êtes l'auteur d'un petit livre intitulé Trump et la fin de l'Empire américain, qui est paru il y a 2 ans aux éditions des Cimes. C'est un petit livre de synthèse sur l'histoire récente des États-Unis et en particulier de leur politique extérieure. Voilà, un petit livre à 12 euros aux éditions des Cimes. Et donc, ça m'a donné l'idée de vous convier parce qu'il y a quelques jours, le monde s'est réveillé stupéfait après une opération audacieuse, et il faut le dire, très, très efficacement menée, par les États-Unis de Donald Trump au Venezuela. Quelques bombardements ciblés et un commando qui capture le couple présidentiel du dictateur marxiste Maduro et qui l'emmène dans la foulée aux États-Unis pour qu'il y soit jugé au motif de trafic de drogue et de terrorisme. Alors, puis-je vous demander, Alain Le Bihan, vous qui suivez de près et qui avez étudié la politique, notamment extérieure des États-Unis, ces dernières décennies, ces derniers siècles, eh bien, ce que cela vous inspire ?
Oh, c'est la première idée qui m'est venue quand j'ai vu le déroulement de l'opération, c'était que Trump, il a un décompte à rebours qui est en place maintenant, puisque vous allez avoir les élections à mi-terme qui vont avoir lieu dans 11 mois,
oui.
Dans 10-11 mois. Et je pense qu'il va tout conditionner en fonction de cette échéance, parce que s'il perd les élections, ça veut dire qu'il ne pourra plus manœuvrer. Ce sera le Congrès qui sera l'élément de commandement des États-Unis.
Oui, alors que là, pour l'instant, il a le champ libre après son
Absolument.
Dernier triomphe. Il a fait un triomphe aux dernières élections.
Voilà. Alors, donc, j'ai vu, si vous voulez, toute l'opération qui a été faite à Caracas. Je l'ai vu avec ces yeux-là. C'est-à-dire que il faut pas se louper. En fait, il n'a pas fait une opération militaire contre le Venezuela. Il a récupéré le président et son épouse. Certes, dans des conditions spéciales, mais il n'y a pas eu d'opposition de la part de l'armée vénézuélienne. Il n'y a pas eu de mobilisation.
Oui.
Donc, si vous voulez, il y a eu quand même une préparation en amont. Je ne suis pas dupe là-dessus. Ouais. Alors, ceci étant, compte tenu de la réussite de l'opération, Donald Trump en a rajouté un peu à sa façon, parce que c'est quand même un homme de communication. Il a dit nous allons reprendre notre pétrole, les grandes compagnies américaines vont pouvoir retourner au Venezuela, on va récupérer en fait ce qui nous appartient, quoi. On retrouve là donc les idées qui sont les vieilles idées autour de la doctrine Monroe, qui veut que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud soient les chasses gardées des États-Unis. Et puis en même temps, on a entendu qu'il a dit, parlant de Cuba, parlant de la Colombie et parlant du Mexique, calmez-vous. C'est-à-dire, voilà, je reprends mon statut de gardien de l'orthodoxie américaine sur le continent.
Oui.
Alors,
oui.
Si vous voulez, la deuxième chose qui vient, c'est que c'est au moment où ils sortent le document qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Donc, on ne peut pas voir l'opération du Venezuela en dehors de la publication de ce document sur la sécurité des États-Unis. La stratégie de sécurité des États-Unis.
Oui. Bon, en tout cas, Trump a le mérite d'être assez franc, en tout cas, souvent, et là, notamment en parlant très vite de pétrole, bon, il a fait comprendre que derrière le motif de lutte contre la drogue, ou d'autres causes.
La lutte contre la drogue, vous noterez que donc c'était la raison de la capture de Maduro et sa femme.
Oui, la raison officielle.
C'était le narcoterrorisme, mais ça n'a pas été repris à New York par le tribunal. C'est pas l'accusation qui a été formulée hier ou avant-hier.
Ouais.
Donc, le Venezuela rentre pour peu dans le trafic. Hein. Le trafic, c'est un peu plus haut, c'est la Colombie. Mmh. Bon, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est comment ça s'inscrit dans l'histoire américaine, parce que c'est toujours un peu à partir de là qu'on peut voir les choses, c'est-à-dire de leurs habitudes ou de leurs mauvaises habitudes. Et donc j'avais étudié à ce moment-là le document relatif à la stratégie de sécurité, et j'avais écouté ce que disait Jeffrey Cash, qui lui était quand même un pro Trump, et puis qui a pris ses distances vis-à-vis de l'opération, pour faire simple. Hein. Lui, il a dit, il conteste quoi ce qu'il y a dans ce document, dans lequel il a relevé plusieurs éléments qui nous concernent d'ailleurs, le fait que Trump a renouvelé la réalité que les USA sont une puissance inégalée dans le monde, que les USA ont une vision un peu machiavélique du monde et surtout des nations qui la composent, parce qu'ils veulent en faire des instruments de leur domination. Ils font fi du droit international. On a eu l'autre événement qui s'est passé avec l'Ukraine, où on a dit qu'on était sorti aussi du droit international. Et j'ai regardé un petit peu dans le détail toutes ces choses, parce que c'est vrai et faux à la fois.
Oui.
C'est vrai et faux à la fois. C'est que autant, si vous voulez, dans la période lors de l'écroulement de l'Union soviétique, la période qui a suivi avec Clinton, là, effectivement, Il pouvait dire que c'était la puissance globale, c'est-à-dire elle est puissante dans tous les domaines et elle est la seule sur la planète. Autant depuis, on peut plus dire ça. Les États-Unis ne peuvent plus dire ça. La Russie s'est quand même profondément modernisée, profondément renouvelée. Elle a une armée puissante. Ils ont des armements ultra sophistiqués. D'ailleurs, à ce propos-là et en incidence, tout ce qui est fait autour du Groenland, c'est le contrôle de tous ces stands de tir qui se trouvent disséminés sur le territoire de la Russie pour se protéger. Donc tout ce qui est missiles hypersoniques, il faut essayer de les neutraliser dès le départ, parce que quand ils ont pris leur vitesse hypersonique, on peut plus les arrêter. Alors bon, vous voyez, pour ça d'ailleurs que Trump a dit, quand on lui a parlé de la doctrine Monroe, il a dit non, c'est Donroe, c'est-à-dire en reprenant son ouais. initial quoi. Ouais. Donc je disais que les États-Unis ne sont plus dans la disposition de puissance globale qu'ils ont eu à un moment. C'est terminé. Et je crois que quand les Chinois ont fait le défilé pour l'anniversaire des 50 ans de la... c'est plus de 50 ans, 70 ans de la révolution chinoise. Bon, les Américains ont été forcément obligés de se poser des questions. Donc c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui on annonce que l'Amérique va multiplier par 1,5 ses dépenses militaires. Elle va passer de 1 000 milliards de dollars à 1 500 milliards. Ceci étant, ça ne veut pas dire pour autant que dans 2 ans, ils seront opérationnels. Tout le monde sait bien qu'il faut environ une dizaine d'années pour mettre son dispositif militaire à niveau. Et l'armée américaine, ça n'a quand même jamais été... on en a beaucoup parlé au cinéma, mais bon, il a fallu quand même qu'elle soit pas mal aidée, parce qu'ils ont quand même... Ils ont pris une tôle en Irak, en Afghanistan, ils ont été obligés de partir. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas des résultats probants. Et je ne pense pas que ce soit avec un matériel supplémentaire qu'ils auront de meilleurs résultats. Ouais. Je pense que Trump, il pense la même chose. Il n'y a pas de raison, s'il nous aperçoit de ça, lui, il a compris que, ceci étant, il faut que MAGA existe, quoi. Make America Great Again, il faut quand même que ça se manifeste dans les faits.
Ouais. Et alors, si vous voulez bien, pour revenir un petit peu sur le Venezuela et essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière, et même derrière le pétrole, peut-être. Peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs que le Venezuela occupe une position stratégique très importante par les réserves de pétrole qu'il détient.
Oui, c'est 300 milliards de barils.
Oui, ça en fait le premier détenteur mondial, selon les connaissances actuelles, même devant l'Arabie Saoudite.
Oui, absolument. C'est un pétrole très lourd. Hein, c'est carrément du bitume. Hein, on peut tirer d'essence de ce produit-là que grosso modo 10%. Alors que chez les autres, chez les Américains comme en Arabie Saoudite, ils arrivent à tirer 45 à 50%.
Ouais.
Il y a aussi une faiblesse. Mais bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont très riches.
Et alors d'autre part, 70 à 80% des exportations de pétrole vénézuélien ces dernières années partaient vers la Chine. Or, la Chine est l'ennemi officiel, alors là aussi il n'y a pas de mystère, de Donald Trump, l'ennemi numéro un.
Alors, on va voir, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, il a laissé les commandes à la vice-présidente au Venezuela, il a pas remis en cause, il n'a pas fait le régime change, comme faisaient Biden et les démocrates, il a laissé les choses en place, certainement qu'il va peser sur leurs décisions, ça je me fais aucune illusion là-dessus, mais ceci étant, Il lâchera. Le problème du pétrole, c'est le paiement du pétrole aussi qui compte.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que ce sera payé en yuan ou en dollars, hein, c'est toujours la même histoire.
Oui, mais alors il faut expliquer un peu ce système aux auditeurs, c'est important.
Pardon ?
Oui, il faut expliquer un petit peu, si vous voulez bien, aux auditeurs, cette question du dollar.
Oui,
du pétrodollar.
En fait, le dollar, ce qu'on appelait, ce que pendant toute une époque, on a appelé les pétrodollars, tout simplement parce que tous les achats et ventes de pétrole dans le monde se faisaient dans une seule monnaie, le dollar. Et cette monnaie, elle n'est pas convertible dans d'autres matières. C'est du papier. Et depuis 1973 ou 1974,
ouais.
Nixon avait décidé qu'il n'y aurait pas de non-convertibilité du dollar en or. Donc, le dollar papier, c'est ça qui faisait fonctionner.
Ouais. Et justement, il y a un anniversaire. Oui.
Ça rapporte à l'Amérique 1 000 milliards par an,
ouais.
l'usage du dollar. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où il y a une espèce de dédollarisation qui est entamée et puis à laquelle ils auront quand même du mal à faire face, il y a toute une partie de leur puissance qui disparaît. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque la Trump annonce qu'il va mettre 1 500 milliards de dollars dans la d'investissement pour l'armée américaine, il va falloir aller chercher sur les ressources propres des États-Unis, hein. Ce sera pas toujours. Donc on va voir comment ça va se passer sur l'achat du pétrole par les Chinois au Venezuela.
Oui.
C'est ça qui va donner quand même un certain nombre d'indices.
Oui. Et dans quelle devise?
Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est que pendant toute la période de gloire, si vous voulez, pendant toute la période où les États-Unis ont été la seule puissance globale, disons que chez eux sont arrivés dans les différents postes de responsabilité politique un certain nombre de gens qui étaient plus là pour s'enrichir que pour faire fonctionner le pays.
Oui,
parce
on connaît ça.
On est quand même un peu sidéré. Je prends le domaine, par exemple, des technologies dites avancées où ça constituait pour les États-Unis quelque chose de marquant. On sait que Boeing connaît des difficultés pour tout ce qui est la numérisation des appareils. Dans le domaine militaire, le fameux F-35 qui devait révolutionner l'avionique fonctionne pas et coûte un prix exorbitant. C'est-à-dire que vous avez eu au sein de l'Amérique, pendant toute une période où ils croyaient être les plus forts, des gens qui sont venus pour s'enrichir. Mmh. D'ailleurs, il y a des correspondances avec la France et l'Europe. Hein, faut pas l'épidémie de Covid, c'est quand même un petit peu ça. Puis la guerre en Ukraine aussi, c'est tout un transfert d'argent et de matériel vers l'Ukraine, avec forcément des rétro-commissions, c'est comme ça qu'on appelle.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je vous laisse la responsabilité de ce propos.
Oui,
nous n'avons pas beaucoup de temps pour conclure. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de... Enfin, la notion de droit international, c'est intéressant,
oui.
C'est une notion dont il faudrait discuter. Alors, on n'a pas le temps d'aller en profondeur là-dessus, mais est-ce que vous ne croyez pas que cet événement au Venezuela signe la fin de la parenthèse utopiste, c'est-à-dire celle durant laquelle beaucoup, en tout cas en Occident, considéraient que le droit s'était substitué à la force et au rapport de force. Et donc c'est un retour au réel brutal,
oui,
comme c'est souvent le cas,
ouais.
C'est un retour au réel qui s'impose.
Voilà, c'est un retour au réel. Retour au réel qui a commencé aussi avec l'opération spéciale des Russes en Ukraine.
Mmh.
C'est-à-dire que vous avez des zones d'influence dans lesquelles se dégage une grande puissance avec des petites nations autour, bon, vous n'allez quand même pas leur vendre du matériel de. Hein, qu'on se rappelle, la crise de Cuba, c'était l'équipement de missiles sur l'île, bon, face aux États-Unis. L'Union soviétique avait capitulé à ce moment-là. Mmh. Et je pense qu'il y a. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte.
Il faudrait que la France en tire les leçons.
Toutes les marges, elles peuvent pas être occupées par celui qui représente l'ennemi. Encore que, je pense que compte tenu de la puissance des armements, les grandes puissances vont être obligées d'arriver à un modus vivendi plus fort que celui de cette espèce d'affrontement latent. Je pense que une fois que la question de l'Ukraine sera réglée, on va voir un changement dans les relations russo-américaines.
Oui. Et je pense si que elle est réglée un jour.
Tout ça qui est un peu en filigrane
oui.
des événements. Oui.
Bon, très
Mais
bien.
Naturellement, avec il y a le bateau, il y a un bateau qui a été arraisonné là en haute mer, un bateau avec un équipage russe. Les Russes n'ont pas poussé à. Enfin, ils ont fait des déclarations d'intention, mais ils n'en ont pas rajouté.
Oui.
Donc, si vous voulez, tout le monde essaye un peu de contrôler les choses de telle façon que ça dérape pas sur une guerre.
Oui, oui.
Qui là serait très meurtrière. Bon.
Merci, voilà Alain Le Billon. Oui.
Comment j'ai perçu les choses.
Oui. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous votre perception.
Voilà, non, je rappelle que
vous êtes l'auteur d'un petit livre, entre autres, mais d'un petit livre intitulé « Trump et la fin de l'Empire américain », paru ouais. aux éditions des CIM. Merci
le
Alain.
Le titre d'ailleurs, oui. Le titre, il est vraiment actuel.
Effectivement. À bientôt Alain.
Eh bien, à bientôt Thibault et merci beaucoup.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre deuxième partie. Chers auditeurs, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, en direct. Et puis nous allons tout de suite nous lancer dans notre deuxième thème et parler de démocratie et plus particulièrement de démocratie chrétienne. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Maxence Écart. Merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous.
Vous êtes ce soir ici au titre de philosophe, puisque je vous ai déjà reçu dans d'autres circonstances et pour d'autres thèmes assez différents. Et vous êtes l'auteur d'un livre important intitulé « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne ». Et ce livre, je pense que je l'ai déjà abordé avec vous ici. Puis,
exactement, oui, c'est arrivé, oui.
Il vient d'être réédité, c'est la troisième édition.
Non, la quatrième.
Quatrième, pardon. Et donc il s'agit d'une édition augmentée.
Voilà, absolument,
donc, oui. De toute façon, le sujet est tellement vaste, il y a toujours beaucoup de choses à dire, on peut y revenir incessamment. Mais nous allons aussi voir quel développement vous avez ajouté depuis l'édition précédente. Et la première édition remonte à quelle année, je me
souviens. 2007.
Oui.
2007, et là, il n'était plus disponible depuis près de 8 ans. Et il était très demandé, en fait. Et j'avais souhaité approfondir, justement, la question de la démocratie chrétienne et des liens, en fait, entre cette idéologie démocratique et le catholicisme et l'Église, en fait. Et étudier l'histoire de l'émergence de ce concept de démocratie au sein de l'Église catholique était vraiment un sujet très intéressant et très éclairant pour l'étude de la démocratie moderne en elle-même, puisqu'en fait, les deux concepts sont extrêmement liés et j'espère avoir montré dans mon livre que ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie est née d'un certain rejet de la doctrine chrétienne, en fait, de la doctrine catholique.
Ouais. Alors, vous avez déjà prononcé l'expression d'idéologie démocratique, hein, si j'ai bien entendu. Alors, est-ce que vous
Tout
voulez
à fait,
bien,
ouais.
avant d'aborder cet aspect particulier qui est la démocratie chrétienne, nous rappeler brièvement un peu le fil conducteur du raisonnement que vous développez dans ce livre?
Alors, la démocratie moderne est un régime sui generis, c'est-à-dire qui est nouveau, en fait. Hein, et c'est pour ça que je la qualifie de moderne. Il y a certes eu des régimes démocratiques dans la Grèce antique, qui n'ont d'ailleurs pas aussi bien fonctionné qu'on le dit. Hein, j'en refais brièvement l'histoire dans ce livre. Oui. Mais on peut dire qu'on a affaire à un régime nouveau, et j'ai utilisé le terme d'idéologie parce que c'est ce que les philosophes modernes appellent un système global d'interprétation, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la simple théorie politique, mais qui va englober la morale, la culture. Et aujourd'hui, quand on vous dit, bah voilà, une paire de jeans, c'est un vêtement démocratique, et pourtant les pantalons n'ont pas d'opinion. Et donc, ça veut bien dire quelque chose. Et donc, mon travail dans ce livre a été d'examiner l'origine de cette idéologie et son fonctionnement. Car il ne... Ne nous trompons pas, c'est un système très fini et qui a une certaine beauté. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas démocrate, j'adhère à la philosophie traditionnelle. Mais néanmoins, reconnaissons que c'est un système très élaboré et qui aujourd'hui a couvert le monde, puisqu'aujourd'hui, plus aucune nation ne se réclame d'un autre régime que du régime démocratique. Même le royaume du Bhoutan en 2008 a adopté, le roi du Bhoutan a adopté une constitution démocratique. Donc, ça veut dire quelque chose. Alors, je fais court, puisque ça n'est pas notre sujet principal, mais ce que j'explique dans ce livre, c'est que ce système démocratique dépasse la philosophie. En fait, il s'agit du régime politique qui correspond à une vision du monde. Quelle vision du monde? Eh bien, lorsqu'on étudie l'histoire de ce concept, on s'aperçoit que tous les philosophes des Lumières ont adhéré à une philosophie qui, en fait, est assez ancienne et qu'on appelle l'épicurisme. Et on peut le prouver. C'est-à-dire qu'on peut dire comment Hobbes, comment Gassendi ont lu Épicure et y ont adhéré, comment Épicure a inspiré tous les grands philosophes du XVIIIe siècle, comment Kant lui-même se réfère à Épicure et comment cette philosophie épicurienne, qui nous est connue au travers du disciple d'Épicure qu'on appelle Lucrèce, dont on a redécouvert l'œuvre, c'est un magnifique poème, le De Natura Rerum, hein, qui est un poème de plus de 1000 vers dans un très beau latin, et qu'on a redécouvert dans un monastère en Alsace, à Mourbach, en 1417. Et à partir de là, ce texte s'est répandu et a été lu par Montaigne, par tous les philosophes des Lumières. Voyez. Alors, que nous dit Épicure? Eh bien, Épicure nous dit une chose très simple, il nous dit « le monde est un tout et ça fonctionne tout seul. On n'a pas besoin d'un dieu ou de dieu pour expliquer l'existence du monde. Il n'y a pas d'ordre préétabli, les choses auraient pu être différentes de ce qu'elles sont. » Alors, Épicure était un atomiste, donc il a tout un tas de théories sur les atomes, le mouvement des atomes, et il dit « ce monde est en mouvement ». Et Dieu, alors il ne nie pas l'existence des dieux, à son époque c'était impensable de nier l'existence des dieux, mais il dit les dieux n'y sont pour rien dans l'existence du monde et dans son fonctionnement. Alors une fois qu'on a dit ça, ça a été repris évidemment par divers philosophes au cours des siècles, et Épicure a été un peu éclipsé pendant, je dirais, l'essor du christianisme, c'est-à-dire jusqu'au XIVe siècle, et puis il a été redécouvert. Donc, je l'ai dit en 1417. Et puis, au XVIIe siècle, eh bien, c'est la bataille entre Épicure et Aristote, si vous voulez. Et donc, tous les libertins se réclament d'Épicure. Hein. Vous avez la fameuse société épicurienne du Temple, où a été élevé le jeune Arouet, qui deviendra Voltaire, si vous voulez. Et donc, bataille féroce entre les aristotéliciens et les épicuriens, et puis, on va y revenir, la Révolution française, et ensuite Darwin. Et Darwin donne quelque part une onction scientifique à la philosophie d'Épicure, puisque Darwin nous dit les espèces évoluent, et tout ça évolue au hasard, en fonction des circonstances. Donc, il n'y a pas d'ordre dans le monde. On ne peut pas dire qu'il y a un ordre entre les animaux, entre les ordres vivants et tout cela. Tout ça est changeant, si vous voulez. C'est ça le grand message de Darwin. Alors, évidemment, certains philosophes des Lumières, je pense à Condorcet, nous expliquent qu'il y a un progrès dans l'histoire des hommes. Ce sera repris par Teilhard de Chardin, par tous ces gens-là. Et alors, la démocratie dans tout ça, à quoi ça sert? Eh bien, si les hommes ne sont que des singes améliorés et qui évoluent dans l'histoire, et donc s'il n'y a pas une morale qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait d'un dieu, qui serait surnaturel, d'un autre monde, si vous voulez, s'il n'y a pas un monde après la mort, si après la mort nous retournons au néant, eh bien, soyons épicuriens, c'est-à-dire profitons de l'instant présent, et la démocratie est là pour nous donner une certaine stabilité pendant une période donnée. Et la loi d'aujourd'hui contredit la loi d'hier, et la loi de demain contredira la loi d'aujourd'hui. Et ça n'est pas gênant, c'est ce qu'on appelle le progrès, puisque le progrès des hommes, il a certes eu lieu dans les corps, mais il est désormais essentiellement social, si vous voulez. Et donc la démocratie, la condition de ce progrès, c'est la liberté, pour que les choses puissent arriver sans contrainte, et la condition de la liberté, c'est l'égalité. Et c'est ça le principe démocratique. Et c'est pour ça que le grand dogme de la démocratie, c'est l'égalité, parce que l'égalité est la condition de la liberté, et la liberté est la condition du progrès des hommes. Vers où? Eh bien, on ne sait pas. Vers une sorte d'infini. Vous voyez, vers ce que Teilhard de Chardin appelait le point oméga, si vous voulez. Mais en fait, on va vers le nulle part, puisqu'on ne sait pas où on va, mais ça n'est pas gênant, puisque ce qui compte pour le démocrate, c'est la vie, c'est l'instant présent, c'est l'instant que l'on vit. Donc voilà, en un résumé très très court, si vous voulez, mais des choses qu'on peut, je crois, affirmer sur la métaphysique, c'est un grand mot la métaphysique, mais c'est-à-dire la philosophie sous-jacente du régime démocratique. Alors, une fois qu'on a dit cela, on a vu apparaître dans l'histoire des mouvements qu'on appelle des démocrates chrétiens, et il y a eu évidemment tout un tas de contacts avec l'Église depuis l'émergence de ces philosophies épicuriennes au XVe siècle et tout ça. Et quels ont été ces contacts et qu'est-ce qui s'est passé? Et il est intéressant de se poser cette question-là. Parce que une chose qui est peu connue et qui est pourtant incontestable et admise par tous les théoriciens de la démocratie, c'est que l'origine de la souveraineté populaire, ça n'est pas Rousseau, ça n'est évidemment pas la Révolution française, ça n'est pas Hobbes. Le concept de souveraineté populaire a été inventé au début du XIVe siècle par un moine qui s'appelle Marsile de Padoue, qui était un franciscain, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le défenseur de la paix », et il faut que je vous en dise quelques mots, parce que c'est un ouvrage extrêmement important.
Et cet homme n'est n'est plus très connu.
Alors, il n'est pas très connu, mais quand même. Hein,
regarde à l'importance qu'il a eue.
C'est-à-dire que son importance n'est pas encore mesurée, si vous voulez. Ouais. Mais c'est quand même un auteur édité chez Vrin, enfin, qui est un auteur de rêve.
Non, mais je veux dire, dans l'opinion publique.
Dans l'opinion publique, non, c'est pas très connu. Alors, on est donc en 1326. On est sorti 20 ans plus tôt de la querelle de Philippe le Bel avec Boniface VIII. Donc, vous vous souvenez, Boniface VIII émet une bulle qui s'appelle Unam Sanctam, où il dit que quelque part, l'Église peut gouverner les rois. Philippe le Bel s'en offusque. Il essaie de faire enlever, c'était déjà la mode, vous voyez, il n'avait pas d'hélicoptère, mais il essaie de faire enlever Boniface VIII à Anani, et il avait l'intention de l'amener à Lyon pour le faire déposer par un concile. 20 ans plus tard, de nouveau, conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir ecclésiastique, puisque Louis IV de Bavière est élu empereur, mais dans une élection très contestée. Et le pape Jean XXII ne reconnaît pas cette élection. Alors, que fait Louis IV de Bavière? Il engage le fameux Marsile de Padoue, qui était maître de la Sorbonne, et il lui commande un ouvrage de théologie pour défendre sa position. Et donc, dans cet ouvrage, que dit Marsile de Padoue? Eh bien, il dit que le pouvoir vient du peuple, que le peuple est doté de cette faculté de désigner le prince, et que le prince est quelque part son représentant. Et c'est la première théorie, si vous voulez, de la souveraineté populaire. Et cette théorie va être reprise par tous les opposants à la papauté dans les époques qui ont suivi, la plupart, vous voyez. Ce sera repris par les protestants. Oui. Au moment de l'anglicanisme, Jacques Ier énoncera toute une théorie pour expliquer qu'il gouverne son peuple en matière religieuse. Ce sera repris, il y a toute une controverse en Angleterre, qui est le premier pays qui adopte officiellement cette théorie de dire que le roi est le chef non seulement temporel, mais également le chef spirituel, puisqu'il reçoit son pouvoir de Dieu. Et en fait, Marsile de Padoue, si vous voulez, disait le peuple est saint, le peuple est saint, et le peuple chrétien a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'exprime par le peuple chrétien. Et particulièrement dans l'assemblée qui représente le peuple chrétien, c'est-à-dire le concile général. Et c'est ce qu'on a appelé le conciliarisme. Alors, cette théorie sera reprise par les Gallicans, et déjà sous Louis XIII, hein, vous voyez, sous Louis XIII, le jeune Louis XIII aux États généraux en 1610, Edmond Richer, syndic de Sorbonne, émettra toute une théorie pour expliquer que le roi de France ne dépend en rien du pape. Avant cela, vous aviez... Décidez-moi, pardon aux auditeurs
c'est
pour
la
ma
saison,
tour.
C'est la saison.
Il y avait eu toute la pragmatique sanction de Bourges, hein, je ne peux pas tout citer, mais Charles VII, qui pourtant devait son pouvoir à Sainte-Jeanne d'Arc beaucoup plus qu'au peuple français, a donc adopté ce qu'on a appelé les libertés de l'Église gallicane, et tout ça sera repris par Louis XIV. Vous voyez? Et au XVIIIe siècle, eh bien...
Nous avions évoqué un peu cela avec le frère Thierry dans une récente émission sur Don Guéranger, oui. La question du gallicanisme.
Qui est une hérésie. Mais la question omnis potestas ad eo. Là, tout le monde est d'accord. Alors, per populum.
Tout pouvoir vient de Dieu.
D'ailleurs, la plupart des théologiens jésuites, espagnols, soutiennent cette thèse.
Alors,
le pouvoir vient de Dieu par le peuple.
Et justement, c'est un des points que j'ajoute dans mon livre, dans cette dernière édition. Oui. C'est la position qui a été adoptée par les théologiens de la contre-réforme au sujet du rôle du peuple dans le pouvoir politique. Et quand vous dites que le roi tient son pouvoir de Dieu, per populum, vous faites quand même, si vous me le permettez, frère Thierry, un petit raccourci. La réalité, c'est que, de fait, les théologiens de la contre-réforme expliquaient que le peuple avait un rôle dans la désignation du prince. Donc je me réfère à saint Robert Bellarmin, qui est le plus grand des théologiens de la contre-réforme. Hein, Théodore de Bèze a dit qu'il les avait tous mis par terre avec son monumental ouvrage des controverses. Qu'est-ce qu'il dit saint Robert Bellarmin dans les controverses? D'abord, il écarte le contrat social, puisque le contrat social était connu bien avant Rousseau, puisque c'est une théorie que l'on retrouve dans Cicéron. Cicéron expliquait que les hommes vivaient de façon solitaire et puis ont décidé de se mettre ensemble à un moment donné. Et donc, saint Robert Bellarmin dit que ça n'est pas réaliste. Et de fait, Aristote a raison, l'homme naît toujours dans une société. Les hommes ne naissent pas seuls dans les forêts, si vous voulez. Donc, l'homme est par nature politique. Et donc, la société est une réalité naturelle et non pas une réalité née de la volonté des hommes, si vous voulez. Alors, saint Robert nous dit cela, et il nous dit, évidemment, tout pouvoir vient de Dieu. C'est la parole de saint Paul, de l'Épître aux Romains, chapitre 13. Mais, dit-il, Dieu ne donne pas la forme de gouvernement. Et c'est vrai, puisque les anciens expliquaient qu'on pouvait avoir soit une monarchie, soit une aristocratie, soit une démocratie. Il y avait plusieurs formes possibles. Et qui donne la forme du gouvernement? C'est le peuple, et qui peut changer de forme quand il le souhaite. On l'a vu notamment dans l'histoire romaine, où on est passé de république à l'empire, et auparavant il y avait des monarques. Donc on voit bien que c'est une chose qui est changeante. Mais le fait que le peuple désigne le gouvernant, d'abord, nous dit saint Robert, et ça a été toute la controverse qu'il a tenue avec le roi d'Angleterre, Jacques Ier, à la demande du pape Paul V, le fait que le peuple ait choisi une famille, ce choix est définitif. Et donc le peuple n'est plus souverain. Le souverain, c'est la famille régnante qui a été choisie. Et en réalité, saint Robert nous explique de façon très précise que c'est un simple rôle instrumental, cette désignation. Ça ne correspond donc pas du tout à une souveraineté populaire. Et donc, en réalité, saint Robert Bellarmin développe la position qu'avait développée saint Thomas d'Aquin, à savoir que le peuple donne son consensus au roi aux aristocrates, son consentement. Il parle de consensus pactum. Et donc, le régime le plus harmonieux, c'est quand toutes les composantes sont d'accord sur le fonctionnement. Et donc, le consensus du peuple est quelque chose de très important et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est un peu remis en cause par beaucoup de gouvernants. Mais ça n'est pas la souveraineté populaire, voyez. Et donc, cette souveraineté populaire qui va prospérer après Marcille de Padoue, à partir du XVIIIe siècle, en fait, le lien avec la religion est coupé. Et donc Rousseau imagine cette souveraineté populaire sans rapport avec Dieu. Et donc ça va nous donner la Révolution française, où la souveraineté populaire ne repose absolument pas sur un pouvoir divin, si vous voulez. Alors, pendant la Révolution française, la constitution civile du clergé, on peut prouver, on a les noms des membres de l'Assemblée qui ont rédigé cette déclaration, et ils étaient tous jansénistes et gallicans. C'est-à-dire que tous, en fait, étaient réunis par le rejet de la papauté. Et donc, cette constitution civile du clergé, elle est très intéressante parce qu'elle était décrite par Marcille de Padoue dans son traité sur le défenseur de la paix, où il expliquait qu'il revenait au peuple de désigner les évêques et les curés. Et lorsque Pie VI condamne cette constitution civile du clergé dans sa fameuse bulle « Quod aliquantum » en 1791, il se réfère à Marcille de Padoue. Et il se réfère aux protestants qui ont adhéré à la doctrine de Marcille de Padoue. Donc vous voyez en fait que dès l'origine, le concept de Marcille de Padoue a fait fleurir dans toute l'Europe. Hein. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres éléments.
Le joséphisme.
Hein,
le concile de Pistoie.
Le concile de Pistoie, lancé par Louis XII, vous voyez. Le concile de Pistoie, parce qu'il y en a eu deux conciles de Pistoie. Mais le premier lancé par Pie XII, et puis le concile de Pistoie avant la Révolution française, qui était juste un produit de Febronius, hein, de l'équivalent du gallicanisme également dans le royaume de Naples. Voyez. Alors, tout ça, c'est un grand mouvement qui consiste à dire les sociétés civiles sont indépendantes de l'Église, en fait. C'est ça le fond, voyez. Et donc, alors vous voyez le lien avec l'épicurisme, parce que s'il n'y a pas d'ordre de Dieu, il n'y a pas de raison qu'il y ait un ordre de l'Église, et donc le peuple est souverain et se donne sa loi. Bon, et y compris en matière religieuse, voyez. Et alors, finalement, la dialectique entre l'Église catholique et la démocratie qui devenait un système autonome, en fait, va se poursuivre au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, notamment en France, le clergé français, qui pourtant avait payé le prix du sang à la Révolution française, eh bien, le clergé français restait gallican. Et vous avez, pas tous, mais en grande partie, il restait gallican. Et donc, vous avez tous les écrits de Joseph de Maistre qui sont adressés au clergé français.
Capital.
Et où il explique très bien ça. Où il explique que, en réalité, la Révolution française, que rejette le clergé français, eh bien, elle est liée au gallicanisme. Et on doit bien le dire, le clergé français ne l'a pas compris. Et donc, lorsque nous sommes, voyez, un Félicité de Lamennais, qui était ultramontain au début de sa vie, et qui a d'ailleurs été en contact avec Joseph de Maistre.
Mais bien sûr, mais seulement, à l'époque de Lamennais, il est peut-être né trop tôt. Il aurait été, mettons, 30 ans de plus. Dans l'épiscopat, il y avait des évêques romains.
Pas beaucoup. Vous voyez, lorsque vous arrivez...
Autant de
Monseigneur Pie, mais Monseigneur Pie était une exception.
De Parisie, enfin, il y avait tout un groupe.
Mais enfin, le chef du clergé français à l'époque, c'était Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, avec Monseigneur Dupont-Loup. Et je vous rappelle qu'ils étaient, tous gallicans. Et ils avaient un théoricien qui s'appelait Henri Marais, qui était évêque in partibus. Qui après a été évêque de Surat, et Monseigneur Henri Marais, dont les écrits sont très intéressants, ils ont été mis à l'index, mais c'est très intéressant, qui avait connu Lamennais dans sa jeunesse. Il avait participé au journal L'Avenir, et donc il a fait tout un ouvrage que je possède, bien qu'il soit à l'index, et où il reprend toutes les théories de Marcille de Padoue, si vous voulez. Et alors, il a fait de nombreux écrits qui sont où il préfigure la démocratie chrétienne, en réalité. Il disait « La souveraineté populaire est un don de Dieu dans la nature humaine. » Ce sont quand même des paroles extrêmement fortes, vous voyez. Et il écrivait ça dans les années 1840. Voyez. Et il prônait donc une réconciliation, comme Lamennais, entre l'Église et la République. Alors,
l'accordaire aussi.
L'accordaire aussi, mais de façon moins claire quand même. Voilà, beaucoup plus feutré. Et alors, donc, il y a eu le Concile Vatican I, et au Concile Vatican I, la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, qui a enfoncé définitivement le conciliarisme, cette hérésie conciliariste qui était condamnée, puisque le conciliarisme, ça consiste à dire que le concile est supérieur au pape et pourrait déposer le pape.
L'œuvre de Don Guéranger, la monarchie pontificale, a joué un très grand rôle pour ça.
Eh bien, la monarchie pontificale était précisément une réponse à l'ouvrage d'Henri Marais.
Mais je sais.
Et qui a été écrite dans l'urgence pendant le Concile Vatican I.
À la demande du pape.
À la demande du pape. Donc, vous voyez qu'il y a eu une bataille extrêmement dure et très chaude au moment du Concile Vatican I. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce Concile Vatican I a été interrompu par Garibaldi et par les troupes républicaines, si j'ose dire italiennes, qui ont donc bloqué le travail des pères de Vatican I. Et puis, Léon XIII est arrivé sur le trône pontifical. Alors, avant Léon XIII, le pape Pie IX, donc, qui a été cerné dans ses états, avait expliqué aux catholiques italiens qu'il n'avait pas le droit de participer aux élections, d'aller voter, ce genre de choses, parce que, disait-il, vous allez participer à un régime profondément mauvais. Et lorsque Léon XIII monte sur le trône pontifical, il rappelle les grands principes éternels de l'Église en disant que tout pouvoir vient de Dieu, que la société est une réalité naturelle et qui ne dépend pas de la volonté des hommes. Il rappelle tout ça. Et puis, il voyait bien que les choses n'avançaient pas dans les pays catholiques. C'est-à-dire que le comte de Chambord ne parvient pas à reprendre le pouvoir. Dans beaucoup de nations, l'Église perdait du terrain, si vous voulez, partout. Et donc, l'argument qui consistait à dire que tout pouvoir vient de Dieu a été retourné, en quelque sorte. Et Léon XIII dit, la République, quelque part, est un pouvoir légitime, puisqu'elle existe et qu'elle gère la France. Et donc, quelque part, ce pouvoir vient de Dieu, même s'il est illégitime, si vous voulez. Et donc, Léon XIII va consacrer plusieurs encycliques où il rappelle
les principes.
Tous les principes de façon absolument impeccable. Jamais il ne va dire l'inverse de ce que c'est. Prédécesseurs ont dit, mais il va simplement dire, écoutez, les philosophes distinguent diverses formes de gouvernement, dont la forme démocratique, et en soi, toutes ces formes sont bonnes. Et donc, ce que je vous propose, quelque part, c'était un mouvement tactique.
De christianiser la République.
C'est de christianiser la République, de la baptiser.
Oui. Non, voyez,
tout en rappelant très fortement que seule la religion pouvait fonder la société civile.
Il n'était pas du tout libéral.
Alors,
hein.
Pas du tout.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une explication politique? Léon XIII était assiégé au Vatican. Est-ce qu'il ne cherchait pas des alliés contre l'Italie? C'est une interprétation, hein.
Je ne pense pas qu'on puisse expliquer ces grands mouvements par des histoires plus circonstancielles, si vous voulez. Sans doute qu'il y a eu des circonstances qui ont pu jouer dans les prises de position et des choses. Mais le fond de l'affaire, c'est que les sociétés se déchristianisaient, qu'on ne pouvait pas considérer que les pouvoirs établis étaient instables, et qu'il fallait bien que les catholiques vivent dans ces sociétés-là. Et donc, le dernier espoir d'un Léon XIII et après lui de Pie XII en 1944, qui aura à peu près la même réaction, c'est de dire, écoutez, essayons de christianiser ces régimes-là. Et alors, simplement, et je vous repasse la parole, frère,
très
mais...
Très brièvement, parce que...
Voilà. Mais en fait, ils ont voulu... ces papes, Léon XIII et Pie XII, donnaient un concept de la démocratie qui était un concept ancien. Ils n'ont pas vu que la démocratie était un nouveau régime très antichrétien. Alors je vais très rapidement parce que c'est la fin.
Il faudra revenir pour développer la suite, parce qu'on ne peut pas dire le Sillon, tout ça.
La condamnation du Sillon.
Non mais frère, on n'a pas le temps de nous lancer là-dedans.
Je vais poser une question quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un certain thomisme, néo-thomisme italien, qui a favorisé la démocratie chrétienne?
Mais il y a forcément eu de très nombreux chrétiens qui ont été séduits par l'idée de faire un compromis, si vous voulez, avec le monde. Parce que la position qui consiste à dire « je campe sur mes positions sachant que je ne pourrai pas atteindre le pouvoir et puis j'attends la fin de l'orage », si vous voulez, c'est une position très difficile à tenir sur le long terme. Et donc, tout le monde a essayé d'imaginer des compromis d'une manière ou d'une autre. C'est à cela qu'on a assisté. Et ensuite, on a bien vu que l'Église perdait du terrain. Et aujourd'hui, l'Église d'après Vatican II, et c'est l'Église telle que l'envisageait Emmanuel Kant, et c'est devenu la religion de l'homme, et c'est donc devenu un véhicule de cette démocratie moderne.
Nous allons devoir nous quitter là-dessus, Maxence Eckart. C'est un sujet très, très riche et important. Alors, nous n'avons que le commencer. Il faudra revenir, si vous voulez bien, pour continuer.
Avec plaisir, avec plaisir.
Parce que Taparelli est intéressant. Il prépare au fond la démocratie chrétienne. Et ensuite, voir Marc Sagnier.
Mais c'est ça. J'avais prévu d'en parler, mais c'est
difficile. Nous y reviendrons.
C'est difficile.
Parce que les audits, frères, il faut vraiment passer à la suite, sinon je vais me faire quereller par le suivant. Il n'y aura pas de temps. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde. Je recevais Maxence Eckart, auteur d'un livre intitulé « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne ». Cette nouvelle édition donc est parue aux éditions des Tilleuls, avec toujours la préface du professeur Pierre Magnard, bien connu des auditeurs fidèles de cette radio et de cette émission notamment. Merci beaucoup Maxence.
Merci Thibault de m'avoir invité et pardon encore aux auditeurs pour ma toux.
Cette saison. Et puis alors, donc vous reviendrez si vous le voulez bien pour poursuivre cette discussion avec la contribution des auditeurs aussi. N'hésitez pas, chers auditeurs, à faire part de vos messages ou de vos remarques que nous pourrons reprendre lors d'une prochaine séance.
Ça remet en cause aussi la notion de droit naturel.
Nous nous retrouvons dans quelques instants après un petit intermède.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde. Nous allons aborder notre troisième et dernière partie et donc reprendre et poursuivre notre promenade dans le Paris sacré avec Gérard Le Tailleur et le frère Thierry. Gérard Le Tailleur, écrivain et fin connaisseur de Paris. Le Paris des bistrots, mais aussi le Paris
bistrots, aussi,
des édifices religieux.
Et même des bouillons. Puisque
et les uns vont souvent avec les autres.
Oui, au Chartier, on reste dans la même ligne un peu.
De... Ouais.
Qui nous rattache
la nourriture
au vieux
du
Paris.
Corps et la nourriture de l'esprit.
Voilà.
Aujourd'hui, nous allons enfin nous tourner vers un lieu assez bien connu, je pense, en tout cas de nom par les auditeurs de Radio Courtoisie. D'autant plus que depuis quelques années, la messe qui est célébré le dimanche et diffusé en direct sur les ondes de la radio, grâce à une installation technique très, très au point. Il s'agit bien sûr de Saint-Nicolas du Chardonnay, connu généralement dans l'opinion publique par les événements de ces dernières décennies, mais qui est peu connu pour son histoire plus ancienne et pas non plus tellement connu pour le riche patrimoine qu'elle héberge. Hein. Alors justement, nous allons essayer de dévoiler un petit peu ceci avec vous, messieurs. Qui commence ?
Moi.
Le frère Thierry.
L'église qu'on connaît actuellement est une église relativement récente. Elle remonte au XVIIe siècle. C'est dans le quartier de Saint-Victor. Autrefois, c'était un des champs sauvages de Chardon, ce qui explique le nom de l'église aussi, Chardonnay.
Oui, et non pas Chardonneret.
Oui, et le chardon était cultivé pour faire des draps. Et Saint-Nicolas, tout simplement, c'est un quartier, la première paroisse. C'est l'évêque de Paris qui avait demandé un terrain, qui lui a été donné d'ailleurs gratuitement par le père abbé de Saint-Victor. C'était des pêcheurs, des marguilliers, dont le patron était Saint-Nicolas. Voilà.
Assez lié
oui,
au
oui.
sauvetage. Hein,
voilà. Eh oui.
Au départ. On revient tout à l'heure.
Oui, on peut reprendre. Les lieux de culte remontent en gros au XIIIe siècle, 1230, première église.
Même première chapelle, en fait.
Oui, la première chapelle.
Une petite chapelle à l'époque.
Qui va être agrandie. Et c'est Guillaume d'Auvergne, l'évêque de Paris, qui demande un terrain à Saint-Victor, qui lui donne pour ses futurs fidèles.
Ah, si vous voulez, cette chapelle, elle va être dédiée à Saint-Nicolas. Et c'est lié à un souvenir particulier, lié au sauvetage d'ailleurs de trois mariniers. Mmh. Hein, donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Saint-Nicolas deviendra le patron des bateliers. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail, une petite anecdote, je pense, importante.
Donc cette église va tomber en ruine petit à petit au cours des siècles. Et c'est au XVIIe siècle qu'on décide de construire un nouvel édifice. Alors, première remarque, c'est une des rares églises de Paris qui n'est pas orientée vers Jérusalem. Ah oui, c'est à noter, c'est très important.
Pourquoi ?
Le terrain.
Ouais.
Le terrain. Alors, cette future église va jouxter ce qui, maintenant on voit le palais de la Mutualité, qui était un séminaire, un haut lieu de spiritualité bourgeoise.
De bourgeoise, oui.
Un oratorien, et le séminaire va durer jusqu'à sa démolition. Et la future église, qui va être construite à partir de 1656, va servir au culte sans interruption jusqu'à la Révolution. Heureusement, elle va être louée, je reviendrai sur les événements antérieurs, à une citoyenne...
Potin, d'ailleurs.
Ouais, Potin.
Porte bien son nom.
Oui, mais heureusement qu'elle est
louée. Eh ben oui, ben oui.
Parce que lorsque les révolutionnaires décident de la raser...
Bien sûr.
Elle exhibe de son contrat de location. Et très rapidement, le Concordat. Mais l'église est complètement... Il n'y a plus rien. L'hôtel a été cassé.
Elle a été pillée.
Alors,
le maître-hôtel a été brisé.
Alors, quelques œuvres d'art ont été sauvées par le noir. Les objets ont été transportés au musée des monuments français qui était, je crois, dans un ancien monastère, les Grands Augustins. Je ne me trompe pas.
Et bien, la réserve des petits Augustins.
Oui, voilà. Petits Augustins.
Effectivement, c'est grâce au bail de location donc, qu'elle va, voilà, donc Concordat,
alors,
donc 1801, ça va permettre...
Qui va dessiner les plans de l'église ? Très intéressant. Le peintre du roi, Charles Lebrun. Alors bien sûr, le nôtre va aussi jouer un rôle dans la construction de l'église.
Charles Tailleur, vous voulez revenir un petit peu sur l'histoire ?
Alors, La première pierre est posée en 1667 par l'évêque de Paris. Monsieur.
Oui. Allez-y.
Alors, monsieur de Péréfixe, ou monsieur de Péréfixe, comme on veut. Et c'est que plus tard, quelques années plus tard, que l'autel va être consacré. Mais l'église ne sera jamais consacrée. De Beaumont refuse la consécration, tout simplement parce que le portail n'est pas fait. L'église n'est pas terminée. Il faudra attendre le XXe siècle, avec l'évêque auxiliaire de Paris, monsieur de Bossard, pour qu'elle soit enfin consacrée.
Pratiquement à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors,
c'est ça.
1937-38, je pense.
C'est ça. Ouais. Alors, il y a un projet de façade déjà dessiné sous l'Ancien Régime, mais qui n'aboutit pas. On a ça des cartons, des gravures, uniquement.
Ah, c'est le point commun à travers le temps qui va s'écouler, donc depuis l'érection de cette petite chapelle jusqu'à ce qu'on vient d'évoquer, donc, eh bien, c'est le manque de financement. C'est toujours été le drame. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, hein, même en 1716, vous allez.
Des loteries de grains.
On va organiser des lots et des gains de loterie royale, d'ailleurs, en faveur du bâtiment. Hein. Et la nef donc, sera achevée grâce à cela en 1716. Et la voûte donc sera posée qu'en 1768. Vous voyez le temps. Donc entre temps, on essaye toujours de trouver les moyens pour obtenir ce que l'on cherche et ce que l'on espère trouver, à savoir le temps et le financement pour aboutir à cette magnifique église. D'ailleurs, entre parenthèses, parce que je crois que c'est quand même une des plus belles de Paris. Elle est assez exceptionnelle. Quand on arrive donc dans ce 5e arrondissement, on est heureux de la voir.
Donc après le Concordat, l'Église va récupérer certains de ses objets qui ont été dispersés, entre autres...
Peu à peu. Hein,
oui, aux petits Augustins. Les chapelles latérales vont être restaurées, très lentement. Un nouveau maître-autel va être installé, puisque l'ancien a disparu, qui sera consacré en 1814. Et la façade terminé en 1937-32, et sera consacré l'église par l'auxiliaire de Paris. Donc il a fallu près de 3 siècles pour terminer l'église. Là aussi, il y a des leçons à tirer.
Elle est étonnante. Effectivement, on pourrait aussi, puisque le temps passe malheureusement, parler des trésors et des reliques qui s'y trouvent. Parce que, alors comme relique, il y a cette petite fiole de l'eau qui coule des eaux de Saint-Nicolas, qui a été apportée par Paul de la Croix, et puis aussi un ossement de Saint-Nicolas, peut-être l'Humérus, c'est ce que l'on dit. Alors tout ça repose sur des attestations, notamment de Louise de Foix de Candale, qui était l'abbesse de l'abbatiale Saint-Augustin de Metz. Donc ça, c'est pour la partie relique. Mais ce qui est aussi tout à fait remarquable, ce sont les œuvres d'art qui s'y trouvent, notamment des tableaux magnifiques. Vous avez le martyr de Saint-Jean Porte-Latine par Charles Lebrun, que vous avez évoqué, cher Froy, il y a quelques instants, qui repose d'ailleurs...
Il est enterré là.
Qui est enterré là. Vous avez la Déploration du Christ aussi par Frère Luc. Vous avez la manne, ça c'est c'était réalisé en 1713 par Noël Nicolas Coipel. Et puis vous avez aussi donc par Camille Corot, le grand Corot, le baptême du Christ, qui est une peinture vraiment extrêmement importante, une surface très importante. Le Corot, on pense surtout à ces petits paysages un peu de l'école de Barbizon. Bien là, c'est tout à fait fantastique. Et donc, vous avez donc, des sculptures décoratives aussi, de grande qualité, réalisées par Pierre-Marie Poisson. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus proche de nous, puisque comme date, on peut donner 1930 pour cela. Donc, ce sont des sculptures magnifiques. Vous avez aussi la façade du côté de la rue des Bernardins, qui a bénéficié des sculptures de Nicolas Legendre, qui était un ami de Charles Lebrun. cet artiste donc a orné d'œuvres la chapelle de la Vierge et celle des agonisants. Donc parmi certaines œuvres que l'on y trouve, il y a aussi bien entendu par Jean-Baptiste Corneille, Charles Borromée qui, communie les pestiférés, c'est aussi une œuvre exceptionnelle, les pèlerins d'Emmaüs, donc par le frère André. Alors dans la chapelle de l'église, on trouve différents tombeaux, on a parlé de celui de Lebrun à l'instant, et de sa mère, Julienne Lebé. Alors cette chapelle, d'ailleurs, a été consacrée à Saint Charles Borromée et elle a été réalisée par Antoine Coissevox et par le sculpteur Gaspard Collignon. Alors, c'est vrai que, j'allais dire, la personnalité la plus importante quand on pense à cette église, c'est Charles Lebrun. On revient souvent sur lui, d'ailleurs, hein, puisqu'il a fourni les dessins et les plans de la décoration de la chapelle et de la façade de la rue des Bernardins, tout ça en 1669. Et le dessin de la devanture, ainsi que ceux du tabernacle et du calvaire. Donc c'était un travail tout à fait impressionnant qui a été réalisé par ce grand artiste.
Mais du maître-autel ou de l'autel dit du Saint-Sacrement?
Ça, je crois que c'est le maître-autel, oui, me semble-t-il. Non, non, c'est le Saint-Sacrement, non?
Je pense, oui, parce que
l'autel actuel remonte après le Concordat.
C'est ça.
Ah, le maître-autel avait été brisé, d'ailleurs.
Oui,
voilà, donc il a été refait après, vous avez raison, parfaitement.
Alors, on peut inviter les auditeurs à bénéficier des visites guidées.
Voilà, il y a depuis quelques années un service de visites guidées mené avec brio par des fidèles, des bénévoles. Hein. Je pense que les informations sont sur le site de la paroisse, hein, Saint-Nicolas du Chardonnay. Et donc, chaque semaine, au moins, il y a des visites guidées pour découvrir ce patrimoine remarquable de l'histoire de l'Église. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent là simplement
pour
visiter ce lieu, ces
Alors,
trésors.
On peut évoquer quand même une page de l'histoire de Saint-Nicolas. Comment Saint-Nicolas a été libéré des occupants modernistes.
Prise ou libéré, selon les points de vue. Oui, évidemment, alors, l'Église est surtout connue pour ça, et pour le culte traditionnel qui s'y célèbre.
Tout simplement, le départ, c'était la chapelle Laennec. Du coup, Bourget célébrait la messe dans un hôpital, une très belle église, une très belle chapelle 17e. Et grâce aux intrigues de Marty, le mutin de la mer Rouge, il avait été chassé à la demande des syndicats. Donc, pendant un certain temps, les messes étaient dites à la mutualité, dans des endroits un peu bizarres. Et celle avec Wache, avec d'autres prêtres, décide, Saralda entre autres, de libérer Saint-Nicolas. Et depuis, l'église est tenue. Alors, malgré la demande de l'archevêque de les expulser, Jean Guiton était intervenu pour calmer le jeu. On avait proposé du coup Bourget une église impraticable au bord de Paris, près de l'autoroute, vous connaissez peut-être, une chapelle pour les étrangers, d'ailleurs qui ne sert plus jamais. Et le ministre de l'Intérieur ne voulait pas faire exécuter la décision de justice. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut savoir qu'au départ, l'abbé du Cobourget avait attiré, qui était un fin lettré.
Un poète.
Un type hors norme. Hein, il était chapelain de l'ordre de Malte. Donc il y a eu des paroissiens de renom. Lacoste Larémandie, membre du Conseil d'État... et bien d'autres, hein, Michel de Saint-Pierre, Jean-François Quiap, l'historien, fréquentait l'endroit.
Le prince X de Bourbon-Parme.
Bien sûr, que je connais bien.
Comédien connu, Jacques Dufilho.
Dufilho,
fidèle.
Michel Droit, Paul Guth.
Paul Vialard aussi.
Il paraît qu'on y a vu quelquefois Bernadette Chirac.
Oui, mais bon,
Jean Dutour aussi, un ami de Radio
Courtoisie. Bien sûr, il y allait régulièrement. Louis de Funès.
De Funès aussi.
Eh oui.
Paul Guth.
Oui, mais c'est une autre époque.
Eh, mon Dieu. Louis de Funès qui était tradit, hein, qui a légué une partie de sa fortune, de son héritage,
Jacques
je crois,
Perret,
à la paternité Saint-Pudiste, si je ne dis pas
de. Mais pas uniquement. Il a aidé d'autres monastères aussi. Il était très généreux.
Ouais. Alors pour en revenir un petit peu à cette ruse, avec défrayer évidemment la chronique, qui est un événement important en tout cas dans l'histoire religieuse française du XXe siècle. Hein. Donc nous sommes en 1977, ceux qui sont attachés au rite traditionnel de la messe, hein, la messe de toujours, comme on dit, moins de 10 ans après l'avènement de la nouvelle messe et sa promulgation par Paul VI dans la foulée de Vatican II, eh bien, se retrouvent, comme vous me disiez, frère, un petit peu orphelin de lieux de culte à Paris. Et à côté de ça, on a des églises qui se vident petit à petit, hein, avec la crise de l'église. Et, Saint-Nicolas, si je me souviens bien, c'était pas là, mais on a été assez vide à ce moment-là.
Oui.
Monseigneur Ducos-Bourget avait réclamé plusieurs fois à l'archevêque de Paris,
Monseigneur Marty. J'ai eu comme professeur un des vicaires de Saint-Nicolas.
Ah oui.
Le père Armogat. Oui, qui c'est?
Ben oui, bien sûr, il était...
Mais à l'époque, il était rouge à l'époque.
À l'époque, Saint-Nicolas du Chardonnay était uni à la paroisse Saint-Séverin.
C'est ça.
Et le père Armogat s'occupait des deux églises, en fait. Et donc, parce que la communauté qui fréquentait ces églises était de fait assez modeste. Et,
Et alors un jour, les tradis, comme on dit, sont convoqués au palais de la Mutualité, qui jouxte vraiment l'église... Pour une grande réunion, à l'issue de laquelle, voyez,
ils ont procession.
Une procession vers l'église.
Il y avait le père de Fomervaux, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Et bien sûr, l'abbé Coil. Mais au départ, Mgr Lefebvre n'était pas emballé. C'est que par la suite que Laguéry a été pris comme adjoint, vicaire, enfin, les mots sont difficiles à trouver, de Ducos-Bourget. Et après, bon. Ils étaient bien contents.
C'était
au fond le vaisseau amiral de la fraternité en France.
Et c'est le lieu de culte où est célébrée la messe traditionnelle, le plus connu en France.
C'est
le plus connu, c'est le seul, mais c'est le plus connu de loin.
Il y a Saint-Eugène, Notre-Dame du Lys.
Donc en 1977, voilà. Procession à la sortie de cette grande réunion à la Mutualité pour aller célébrer une messe à Saint-Nicolas. À l'issue de laquelle on ne sort pas. Et puis c'est le curé officiel qui est sorti de fait. L'église est occupée, les gens montent la garde jour et nuit, les tradis veulent un lieu de culte. Et donc depuis, ensuite l'église a été, comment dire, transmise entre guillemets par Mgr Ducos-Bourget et ceux qui l'aidaient à la fraternité Saint-Pie-X, donc qui dessert toujours ce lieu de culte. Et c'est évidemment, c'est une des principales paroisses maintenant de Paris, avec toujours une influence très importante, 5 messes par dimanche, hein, je crois, des permanences de prêtres tous les jours, et puis toute une vie de paroisse assez riche. Voilà. Mais pour en revenir un petit peu au patrimoine, Gérard Le Tailleur, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, alors je voulais dire bien sûr que parmi ce qui constitue ce fantastique patrimoine, il y a le mausolée de Jérôme Bignon aussi, qui est tout à fait étonnant. Alors, Jérôme Bignon était un avocat, conseiller au Parlement, maître des requêtes. Et on y trouve surtout les merveilleuses statues en pierre de la justice et de la tempérance qui furent réalisées par Michel Anguier et le bas-relief en marbre de Saint-Jérôme par François Girardon. Ce sont des pièces magnifiques. Et ce qui attire beaucoup de visiteurs, d'ailleurs, indépendamment du fait que vous avez rappelé ce qui s'est passé avec... Monseigneur François Ducos-Bourget, qui repose d'ailleurs donc dans cette église. Alors il y a d'autres grandes personnalités de l'histoire de France qui se trouvent aussi à Saint-Nicolas. Vous avez Jean de Selves, qui fut premier président du Parlement de Paris, 16e siècle. Adrien Bourdoise, vous avez cité son nom, donc
oui,
qui était
un oratorien,
fondateur du séminaire
et un grand maître de la spiritualité. Les Français du grand siècle.
Et puis alors un personnage aussi qui a eu beaucoup d'importance dans l'histoire, un peu occulte, je pense à Marc-René de d'Argenson, c'était le lieutenant général de police. Alors j'ai occulte parce qu'il a traité beaucoup de dossiers étonnants à l'époque, entre la régence et puis surtout
très impliqué dans la vie de la paroisse.
Oui. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est lui qui a financé d'ailleurs beaucoup. Hein. Beaucoup étaient d'une famille très, très aisée. Claude Imbert Piaron de Champsousset, voilà, donc 18e siècle déjà, médecin, inventeur, maître de la Chambre des comptes. Jean de Santol aussi, le grand chanoine régulier, je pensais à son...
Alors,
c'est un poète.
C'est un poète néo-latin. Voilà. membre de Saint-Victor.
Le plus grand, le plus grand d'après Saint-Simon. Hein.
Voilà. Mais la plupart des liturgies néo-gallicanes avaient des proses de sa composition.
Alors de nombreuses cérémonies ont lieu, les obsèques notamment, de personnalités très, très connues, le poète Jacques Audiberti, Henri Coston aussi,
oui,
puis Pierre Guillaume, qui a participé à beaucoup d'émissions sur...
Ah, le commandant Guillaume, Guillaume Crabe Tambour. Mmh.
Pierre Sidos aussi, qui, comment dirais-je, passons. Et puis donc, et puis alors, d'autres ont fait baptiser leurs enfants.
À la fille Le Pen.
Par exemple. Voilà, donc, ouais. Donc enfin, c'est une église d'abord qui est merveilleusement bien située, qui est au cœur de Paris, en ce secteur estudiantin, donc le cinquième, et qui a drainé toute la vie intellectuelle depuis de très nombreux siècles, on peut dire, dans notre capitale. Voilà, on essaye. Ah, aussi un petit mot, parce que ça, on n'en a pas parlé, si on a une petite minute, c'est l'orgue, l'orgue qui est étonnante, elle provient de l'ancienne paroisse des Saints Innocents, qui avait été supprimé d'ailleurs en 1787. Alors l'orgue a été construit par le facteur François Thierry entre 1720 et 1725. À cette époque, d'ailleurs, il présentait, pour les personnes qui connaissent et qui aiment l'orgue, cet instrument, donc présentait 4 claviers et 24 jeux. Il était restauré en 1790 par un autre facteur d'orgue, Henri Clicquot. Et ça a été quand même inauguré par un des plus grands musiciens, que j'adore d'ailleurs, c'est François Couperin, étonnant. Et puis récemment, donc encore en 2009, l'orgue a été de nouveau restauré, entre 2007 et 2009, par notamment Aubertin et Gaillard. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très puissant d'ailleurs, comme instrument. Quand on a l'occasion d'assister à des messes, on adore écouter cette musique.
Et on a tordu surtout. Oui.
Voilà. On est limité par le temps.
Alors oui, voilà, bien sûr. Il nous reste 2-3 minutes. Hein.
À l'essentiel.
Et on peut parler
fois,
aussi des.
Des vitraux.
Non, mais on a parlé des personnalités, mais il faut aussi peut-être des personnalités saintes qui ont fréquenté ce lieu. Quand on prie dans un lieu, c'est toujours intéressant et émouvant et stimulant, peut-être aussi, de se dire que des gens qui ont triomphé, c'est-à-dire qui ont atteint, on en est sûr, puis qui sont saints, la victoire et la patrie céleste, sont passés là, se sont agenouillés là. Ont communié là, se sont confessés là. Pour Saint-Nicolas du Chardonnay, notamment Saint-Vincent de Paul.
Bien sûr, tout à fait, oui.
Et puis son disciple, Louise de Marillac.
Sainte-Louise de Marillac, oui. Et je crois que Saint-François de Sales est venu également.
Oui, il a dû passer.
Il est passé, mais Saint-Vincent de Paul est venu souvent, et Louise de Marillac aussi, oui.
Et Bourdoise.
Oui, oui, qui est, on l'a dit à l'instant, le fondateur. Donc,
et puis le bienheureux Gros. Qui a été curé de Saint-Nicolas et qui a été martyrisé à la Révolution, et qui est enterré dans une des chapelles latérales. Donc, ça a vraiment... Et de tout temps, cette église a été fidèle à... Précisément, nous parlions de la papauté, et était très romaine. Et donc, son curé avait été châtié par Louis XIV pour s'être opposé aux visées gallicanes de l'évêque de Paris et tout ça, pour faire le lien avec l'émission précédente.
Oui. C'est intéressant.
On a fait ça. Père Effix ou Vintimille était janséniste et gallican, les deux. Par contre, le monsieur de Beaumont était anti-rousseauiste. Il a même écrit un grand poème contre Rousseau. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ça vous dit quelque chose ?
Non.
Très bien.
Vous n'avez pas dit un mot sur le bas-relief sur les larmes de Saint-Pierre ?
On aurait pu effectivement l'évoquer.
C'est un bas-relief du XVIIIe siècle, je pense peut-être fin XVIIe, mais qui est très finement sculpté et qui est en bois naturel. Et qui figure, en fait, Saint-Pierre priant en larmes, regrettant son reniement, en fait. Il est très émouvant. Ouais. Ouais.
Très bien. Eh bien, là-dessus, nous allons nous quitter, chers auditeurs. C'était le Libre Journal de la France Profonde sur Radio Courtoisie, en direct ce jeudi 8 janvier, avec Gérard Le Tailleur, Maxence Écart, le frère Thierry. Merci messieurs de votre participation et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassé, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 8 janvier 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.